Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Au casino, grâce aux manœuvres de mon père, nous nous perdîmes de vue. Je me retrouvais au bar avec Elsa et une de ses relations, un Sud-Américain à demi-ivre. Il s'occupait de théâtre et malgré son état, restait intéressant par la passion qu'il y apportait. Je passais près d'une heure agréable avec lui, mais Elsa s'ennuyait. Elle connaissait un ou deux monstres sacrés, mais la technique ne l'intéressait pas. Elle me demanda brusquement où était mon père, comme si je pouvais en savoir quelque chose, et s'éloigna. Le Sud-Américain en parut un instant attristé, mais un nouveau whisky le relança. Je ne pensais à rien. J'étais en pleine euphorie, ayant participé par politesse à célibation. Les choses devinrent encore plus drôles quand il voulut danser. J'étais obligé de le tenir à bras le corps et de retirer mes pieds de dessous les siens, ce qui demandait beaucoup d'énergie. Nous rions tellement que quand Elsa me frappa sur l'épaule et que je vis son air de Cassandre, je fus sur le point de l'envoyer au diable. « Je ne les retrouve pas, » dit-elle. Elle avait un visage consterné. La poudre en était partie, la laissant toute éclairée. Ses traits étaient tirés. Elle était pitoyable. Je me sentis soudain très en colère contre mon père. Il était d'une impolitesse inconcevable. « Ah, je sais où ils sont, » dis-je, en souriant, comme s'il s'était agi d'une chose très naturelle et à laquelle elle eût pu penser sans inquiétude. « Je reviens. » Privé de mon appui, le Sud-Américain tomba dans les bras d'Elsa et il sembla s'en trouver bien. Je pensais avec tristesse qu'elle était plus plantureuse que moi et que je ne saurais lui en vouloir. Le casino était grand. J'en fis deux fois le tour sans résultat. Je passai la revue des terrasses et pensai enfin à la voiture. Il me fallut un moment pour la retrouver dans le parc. Ils y étaient. J'arrivai par derrière et les aperçus par la glace du fond. Je vis leur profil très proche et très grave, étrangement beau sous les réverbères. Ils se regardaient. Ils devaient parler à voix basse. Je voyais leurs lèvres bouger. J'avais envie de m'en aller, mais la pensée d'Elsa me fit ouvrir la portière. La main de mon père était sur le bras d'Anne. Ils me regardèrent à peine. « Vous vous amusez bien ?» demandai-je poliment. « Qu'y a-t-il ? » dit mon père d'un air irrité. « Que fais-tu ici ? » ?»« Et vous ? Elsa vous cherche partout depuis une heure. » Anne tourna la tête vers moi, lentement, comme à regret. « Nous rentrons. Dites-lui que j'ai été fatigué et que votre père m'a ramené. Quand vous vous serez assez amusé, vous rentrerez avec ma voiture. » L'indignation me faisait trembler, je ne trouvais plus mes mots. « Quand on se sera assez amusé. Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est dégoûtant. »« Qu'est-ce qui est dégoûtant ? » dit mon père avec étonnement. tu amènes une fille rousse à la mer sous un soleil qu'elle ne supporte pas, et quand elle est toute pelée, tu l'abandonnes. C'est trop facile. Mais qu'est-ce que je vais lui dire à Elsa, moi ? Anne s'était retournée vers lui, l'air lassé. Il lui souriait, ne m'écoutait pas, je touchais aux bornes de l'exaspération. Je vais lui dire que mon père a trouvé une autre dame avec qui coucher et qu'elle repasse, c'est ça ? L'exclamation de mon père et la gifle d'Anne furent simultanées. Je sortis précipitamment ma tête de la portière. Elle m'avait fait mal. « Excuse-toi, » dit mon père. Je restai immobile près de la portière dans un grand tourbillon de pensées. Les nobles attitudes me viennent toujours trop tard à l'esprit. « Venez ici, » dit Anne. Elle ne semblait pas menaçante et je m'approchai. Elle mit sa main sur ma joue et me parla doucement, lentement, comme si j'étais un peu bête. « Ne soyez pas méchante. Je suis désolé pour Elsa. Mais vous êtes assez délicate pour arranger cela au mieux. Demain, nous nous expliquerons. Je vous ai fait très mal ? Pensez-vous, dis-je poliment. Cette subite douceur, mon excès de violence précédent me donnait envie de pleurer. Je les regardais partir. Je me sentais complètement vidé. Ma seule consolation était l'idée de ma propre délicatesse. Je revins à Palan, au casino, où je retrouvai Elsa, le Sud-Américain cramponné à son bras. « Anne a été malade, » dis-je, d'un air léger. « Papa a dû la ramener. On va boire quelque chose. » Elle me regardait sans répondre. Je cherchais un argument convaincant. « Elle a eu des nausées, dis-je. C'est affreux. Sa robe était toute tachée. » Ce détail me semblait criant de vérité, mais Elsa se mit à pleurer, doucement, tristement. Désemparée, je la regardais. « Cécile, dit-elle, oh, Cécile, nous étions si heureux. » Ses sanglots redoublaient. Le Sud-Américain se mit à pleurer aussi en répétant « Nous étions si heureux, si heureux !» En ce moment, je détestais Anne et mon père. J'aurais fait n'importe quoi pour empêcher la pauvre Elsa de pleurer, son rimel de fondre, cet Américain de sangloter. « Tout n'est pas dit, Elsa, revenez avec moi. » « Je reviendrai bientôt prendre mes affaires et ma valise, » sanglota-t-elle. « Adieu, Cécile. Nous nous entendions bien. » Je n'avais jamais parlé avec elle que du temps ou de la mode, mais il me semblait pourtant que je perdais une vieille amie. Je fis demi-tour brusquement et courus jusqu'à la voiture. Le lendemain matin fut pénible, sans doute à cause des whisky de la veille. Je me réveillai au travers de mon lit dans l'obscurité, la bouche lourde, les membres perdus dans une moiteur insupportable. Un ray de soleil filtrait à travers les fentes du volet. Des poussières y montaient en rang serré. Je n'éprouvais ni le désir de me lever, ni celui de rester dans mon lit. Je me demandais si Elsa reviendrait. Quel visage auraient Anne et mon père ce matin ? Je me forçais à penser à eux afin de me lever sans réaliser mon effort. J'y parvins enfin. Me retrouver sur le carrelage frais de la chambre, dolente, étourdie. La glace me tendait un triste reflet. Je m'y appuyai. Des yeux dilatés, une bouche gonflée. Ce visage étranger, le mien. Pouvais-je être faible et lâche à cause de cette lèvre, de ses proportions, de ses odieuses, arbitraires limites ? Et si j'étais limité, pourquoi le savais-je d'une manière si éclatante, si contraire à moi-même ? Je m'amusais à me détester. à haïr ce visage de loup creusé et fripé par la débauche. Je me mis à répéter ce mot de débauche, sourdement, en me regardant les yeux. Et puis, tout à coup, je me vis sourire. Quelle débauche, en effet! Quelques malheureux vers, une gifle et des sanglots. Je me lavai les dents et descendis. Mon père et Anne se trouvaient déjà sur la terrasse, assis l'un près de l'autre, devant le plateau du petit déjeuner. Je lançai un vague bonjour, m'assis en face d'eux. Par pudeur, je n'osais pas les regarder. Puis, leur silence me força à lever les yeux. Anne avait les traits tirés, seul signe d'une nuit d'amour. Ils souriaient tous les deux, l'air heureux. Cela m'impressionna. Le bonheur m'a toujours semblé une ratification, une réussite. « Bien dormi ?» dit mon père. « Comme ça, » répondis-je, « j'ai trop bu de whisky hier soir. » Je me versai une tasse de café, la goûtai, mais la reposai vite. Il y avait une sorte de qualité, d'attente dans leur silence qui me rendait mal à l'aise. J'étais trop fatigué pour le supporter plus longtemps. « Que se passe-t-il? Vous avez un air mystérieux. » Mon père alluma une cigarette d'un geste qui se voulait tranquille. Anne me regardait, manifestement embarrassée pour une fois. « Je voudrais vous demander quelque chose, » dit-elle enfin. J'envisageais le pire. Une nouvelle mission auprès d'Elsa. Elle détourna son visage et le tendit vers mon père. Votre père et moi aimerions nous marier, dit-elle. Je la regardai fixement, puis mon père. Une minute, j'attendis de lui un signe, un clin d'œil qui m'eut à la fois indigné et rassuré. Il regardait ses mains. Je me disais, ce n'est pas possible. Mais je savais déjà que c'était vrai. C'est une très bonne idée, dis-je, pour gagner du temps. Je ne parvenais pas à comprendre mon père, si obstinément opposé au mariage, aux chaînes, en une nuit décidé. Cela changeait toute notre vie. Nous perdions l'indépendance. J'entrevis alors notre vie à trois, une vie subitement équilibrée par l'intelligence, le raffinement d'Anne, cette vie que je lui enviais. Des amis intelligents, délicats, des soirées heureuses, tranquilles. Je méprisais soudain les dîners tumultueux des Sud-Américains, les Elsa. Un sentiment de supériorité et d'orgueil m'envahissait. « C'est une très, très bonne idée, » répétai-je. Et je leur souris. « Mon petit chat, je savais que tu serais contente, » dit mon père. Il était détendu, enchanté, redessiné par les fatigues de l'amour, le visage d'Anne semblait plus accessible, plus tendre que je ne l'avais jamais vu.
Oh oui, 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 oui. Allez, et allez. Allez, terrible.
Quand tu danses, danses, danses devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses, danses, danses devant moi, je sens la vie qui va. Et je pense, pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. J'ai besoin ce soir de tout oublier. J'ai besoin de te regarder danser. La cadence dans tes pas me grise et je ne sens plus autre chose en moi qu'un immense, immense feu de joie brûlant mon corps du haut en bas. Dans ma tête en feu, je sens peu à peu la folie qui m'envahit et me trouble les yeux. Et je ne vois plus que tes gens venus, saravande de légendes, monde merveilleux. Tes yeux, quand tu danses, danse devant moi, je sens mon cœur qui bat au rythme de tes pas. Quand tu danses, danse devant moi, je sens la vie qui bat, et je pense, pense que jamais, jamais tu ne devrais t'arrêter de danser. Alors danse, danse devant moi, je danse si plus n'arrête pas. L'assemblée a dévoré le veau gras et l'alcool commence à verser du décal. L'alcool, l'alcool coule à flot. L'alcool, l'alcool coule à plein ruisseau. Et tu danses, danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et tu danses, danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et allez. L'alcool coule à flot. L'alcool, l'alcool coule à plein ruisseau. Et tu danses, danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. Et tu danses, danses devant moi, je t'en supplie, n'arrête pas. N'arrête pas.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonjour Tristesse, le roman de Françoise Sagan. Mon père me tendait les deux mains, m'attirait contre lui, contre elle. J'étais à demi agenouillé devant eux. Il me regardait avec une douce émotion, me caressait la tête. Quant à moi, je ne cessais de penser que ma vie tournait peut-être en ce moment, mais que je n'étais effectivement pour eux qu'un chat, un petit animal affectueux. Je les sentais au-dessus de moi, unis par un passé, un futur. Des liens que je ne connaissais pas, qui ne pouvaient me retenir moi-même. Volontairement, je fermais les yeux, appuyai ma tête sur leurs genoux, ris avec eux, repris mon rôle. D'ailleurs, n'étais-je pas heureuse? Anne était très bien. Je ne lui connaissais nulle mesquinerie. Elle me guiderait, me déchargerait de ma vie, m'indiquerait en toutes les circonstances la route à suivre. Je deviendrai accompli. Mon père le deviendrait avec moi. Mon père se leva pour aller chercher une bouteille de champagne. J'étais écœuré. Il était heureux, c'était bien le principal, mais je l'avais vu si souvent heureux à cause d'une femme. J'avais un peu peur de vous, dit Anne. Pourquoi ? Demandai-je. À l'entendre, j'avais l'impression que mon veto aurait pu empêcher le mariage de deux adultes. « Je craignais que vous n'ayez peur de moi, » dit-elle, et elle se mit à rire. Je me mis à rire aussi, car effectivement, j'avais un peu peur d'elle. Elle me signifiait à la fois qu'elle le savait et que c'était inutile. « Ça ne vous paraît pas ridicule, ce mariage de vieux ?» « Vous n'êtes pas vieux, » dis-je, avec toute la conviction nécessaire, car une bouteille dans les bras, mon père revenait en valsant. Il s'asseyait auprès d'Anne, posait un bras autour de ses épaules. Elle eut un mouvement du corps vers lui qui me fit baisser les yeux. C'était sans doute pour cela qu'elle l'épousait, pour son rire, pour ce bras dur et rassurant, pour sa vitalité, sa chaleur. 40 ans, la peur de la solitude, peut-être les derniers assauts d'essence. Je n'avais jamais pensé à Anne comme à une femme, mais comme à une entité. J'avais vu en elle l'assurance, l'élégance, l'intelligence, mais jamais la sensualité, la faiblesse. Je comprenais que mon père fut fier. L'orgueilleuse, l'indifférente Anne Larsen l'épousait. Pouvais-je distinguer cette tendresse de celle qu'il avait pour Elsa ? Je fermai les yeux. Le soleil m'engourdissait. Nous étions tous les trois sur la terrasse, pleins de réticences, de craintes secrètes et de bonheur. Elsa ne revint pas ces jours-là. Une semaine passa très vite. 7 jours heureux, agréables, les seuls. Nous dressions des plans compliqués d'ameublement, des horaires. Mon père et moi, nous plaisions à les faire serrés et difficiles avec l'inconscience de ceux qui ne les ont jamais connus. D'ailleurs, y avons-nous jamais cru ? Rentrer déjeuner à midi et demi tous les jours au même endroit, dîner chez soi, y rester ensuite, mon père le croyait-il vraiment possible ? Il enterrait cependant allègrement la bohème, prônait l'ordre, la vie bourgeoise, élégante, organisée. Sans doute tout cela n'était-il pour lui, comme pour moi, que des constructions de l'esprit. J'ai gardé de cette semaine un souvenir que je me plais à creuser aujourd'hui pour m'éprouver moi-même. Anne était détendue, confiante, d'une grande douceur. Mon père l'aimait. Je les voyais descendre le matin, appuyés l'un à l'autre, riant ensemble, les yeux cernés, et j'aurais aimé, je le jure, que cela durât toute la vie. Le soir, nous descendions souvent sur la côte, prendre l'apéritif à une terrasse. Partout, on nous prenait pour une famille unie, normale. Et moi, habitué à sortir seul avec mon père et à récolter des sourires, des regards de malice ou de pitié, je me réjouissais de revenir à un rôle de mon âge. Le mariage devait avoir lieu à Paris, à la rentrée. Le pauvre Cyril n'avait pas vu sans un certain ahurissement nos transformations intérieures. Mais cette fin légale le réjouissait. Nous faisions du bateau ensemble, nous nous embrassions au gré de nos envies, et parfois, tandis qu'il pressait sa bouche sur la mienne, je revoyais le visage d'Anne, son visage doucement meurtri du matin, l'espèce de lenteur, de nonchalance heureuse que l'amour donnait à ses gestes, et je l'enviais. Les baisers s'épuisent. Et sans doute, si Cyril m'avait moins aimé, serais-je devenu sa maîtresse cette semaine-là. À 6 heures, en revenant des îles, Cyril tirait le bateau sur le sable. Nous rejoignions la maison par le bois de pin, et pour nous réchauffer, nous inventions des jeux d'Indiens, des courses à handicap. Il me rattrapait régulièrement avant la maison, s'abattait sur moi en criant « Victoire !» me roulait dans les aiguilles de pin, me ligotait, m'embrassait. Je me rappelle encore le goût de ses baisers essoufflés, inefficaces, et le bruit du cœur de Cyril contre le mien en concordance avec le déferlement des vagues sur le sable. 1, 2, 3, 4 battements de cœur, et le doux bruit sur le sable. 1, 2, 3. Il reprenait son souffle, son baiser se faisait précis, étroit. Je n'entendais plus le bruit de la mer, mais dans mes oreilles, les pas rapides et poursuivis de mon propre sang. La voix d'Anne nous sépara un soir. Cyril était allongé contre moi, nous étions à moitié nus dans la lumière pleine de rougeur et d'ombre du couchant, et je comprends que cela ait pu abuser Anne. Elle prononça mon nom. D'un ton bref. Cyril se releva d'un bond, honteux, bien entendu. Je me relevai à mon tour, plus lentement, en regardant Anne. Elle se tourna vers Cyril et lui parla doucement, comme si elle ne le voyait pas. « Je compte ne plus vous revoir, » dit-elle. Il ne répondit pas, se pencha sur moi, et me baisa l'épaule avant de s'éloigner. Ce geste m'étonna, m'émut, comme un engagement. Anne me fixait avec ce même air grave et détaché, comme si elle pensait à autre chose. Cela m'agaça. si elle pensait à autre chose, elle avait tort de t'en parler. Je me dirigeais vers elle en affectant un air gêné par pure politesse. Elle enleva machinalement une aiguille de pain de mon cou et sembla me voir vraiment. Je la vis prendre son beau masque de mépris, ce visage de lassitude et de désapprobation qui la rendait remarquablement belle et me faisait un peu peur. Vous devriez savoir que ce genre de distraction finit généralement en clinique, dit-elle. Elle me parlait debout en me fixant et j'étais horriblement ennuyé. Elle était de ces femmes qui peuvent parler droite, sans bouger. Moi, il me fallait un fauteuil, le secours d'un objet à saisir, d'une cigarette, de ma jambe à balancer, à regarder balancer. Il ne faut pas exagérer, dis-je en souriant, j'ai juste embrassé Cyril. Cela ne me traînera pas en clinique. Je vous prie de ne pas le revoir, dit-elle, comme si elle croyait à un mensonge. Je ne protestais pas. Vous avez 17 ans, je suis un peu responsable de vous à présent, et je ne vous laisserai pas gâcher votre vie. D'ailleurs, vous avez du travail à faire, cela occupera vos après-midi. Elle me tourna le dos et repartit vers la maison de son pas nonchalant. La consternation me clouait au sol. Elle pensait ce qu'elle disait. Mes arguments, mes dénégations, elle les accueillerait avec cette forme d'indifférence pire que le mépris. Comme si je n'existais pas. Comme si j'étais quelque chose à réduire. Et non pas moi, Cécile, qu'elle connaissait depuis toujours, moi enfin, qu'elle aurait pu souffrir de punir ainsi. Mon seul espoir était mon père. Il réagirait comme d'habitude. « Et quel est ce garçon, mon chat? Est-il beau au moins et sain? Méfie-toi des salopards, ma petite fille. » Il fallait qu'il réagît en ce sens où mes vacances étaient finies. Le dîner passa comme un cauchemar. Pas un instant, Anne ne m'avait dit « Je ne raconterai rien à votre père, je ne suis pas délatrice, mais vous allez me promettre de bien travailler. » Ce genre de calcul lui était étranger. Je m'en félicitais et lui en voulais à la fois, car cela m'eût permis de la mépriser. Elle évita ce faux pas comme les autres, et ce fut après le potage seulement qu'elle sembla se souvenir de l'incident. « J'aimerais que vous donniez quelques conseils avisés à votre fille, Raymond. Je l'ai trouvée dans le bois de pin avec Cyril ce soir, et il semblait du dernier bien. » Mon père essaya de prendre cela à la plaisanterie, le pauvre. « Que me dites-vous là? Mais que faisait-il ? Je l'embrassais, criai-je avec ardeur. Anne a cru, je n'ai rien cru du tout, coupa-t-elle. Mais je crois qu'il serait bon qu'elle cesse de le voir quelque temps et qu'elle travaille un peu sa philosophie. La pauvre petite, dit mon père. Ce Cyril est gentil garçon, après tout. Cécile est aussi une gentille petite fille, dit Anne. C'est pourquoi je serais navré qu'il lui arrive un accident. Et étant donné la liberté complète qu'elle a ici, la compagnie constante de ce garçon et leur désœuvrement, cela me paraît inévitable, pas vous ? Au son de ce « pas vous », je levai les yeux et mon père baissa les siens, très ennuyé. « Vous avez sans doute raison, dit-il. Oui, après tout, tu devrais travailler un peu, Cécile. Tu ne veut quand même pas refaire une philosophie. Que veux-tu que ça me fasse ? Répondis-je brièvement. Il me regarda et détourna les yeux aussitôt. J'étais confondu. Je me rendais compte que l'insouciance est le seul sentiment qui puisse inspirer notre vie et ne pas disposer d'arguments pour se défendre. Voyons, dit Anne en saisissant ma main par-dessus la table, vous allez troquer votre personnage de fille des bois contre celui de bonne écolière et seulement pendant un mois. Ce n'est pas si grave, si ? Elle me regardait. Il me regardait en souriant. Sous ce jour, le débat était simple. Je retirai ma main, doucement. « Si, dis-je, c'est grave. » Voilà, donc nous avons terminé pour ce soir cette suite du roman de Françoise Sagan, « Bonjour, tristesse », que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.